C'est le temps de parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, avant de parler des sujets que tu m'as envoyés, je veux absolument t'entendre sur George Floyd, son assassinat littéralement. Écoute, ça me fait penser à l'époque des lynchages, quand on pendait les Noirs aux branches des arbres. Hallucinant.
Oui, c'est absolument troublant. Puis je fais partie de ceux qui sont incapables de regarder cette vidéo-là. Ouais. Je suis pas capable. Et y a là quelque chose qui est très révélateur d'une vague, d'une espèce de, je dirais même plus, c'est une vague sourde, lourde, profonde à la société américaine, puis ça ne se règle pas. Et là maintenant, c'est sûr que le nom de la du policier qui avait le genou sur le, là maintenant on le connaît, on sait son nom, puis de plus en plus des gens dans les médias même ont partagé le dossier devant la commission des policiers. C'est l'espèce de déontologie policière là-bas de la ville de Minneapolis et d'autres services où il a participé. Écoute, ça donne des frissons dans
c'est
le dos.
Fou.
Tiré dans le dos d'un adolescent latino de 17 ans, des trucs comme ça. Tu lis ça, là, tu te dis, comment en est-on arrivé à ce que des gens comme ça puissent avoir une arme et faire office d'officier de justice, d'officier de police? C'est absolument hallucinant. Et y a là maintenant, là, on va voir ce qui va se passer, mais on le remarque encore une fois, puis je veux le souligner, dans la scène sportive américaine, il y a une politisation qui est grandissante, on le savait déjà. Ça commence avec des voix comme celle de LeBron James, comme Colin Kaepernick, mais il y en a d'autres, et je trouve ça absolument sidérant de voir à quel point ça ne change pas plus rapidement.
Exactement. Ça. La question raciale est toujours là. Elle n'est toujours pas réglée. Il y a un dysfonctionnement profond à l'intérieur de la société américaine.
Puis, moi, en tout cas, j'ai partagé un seul truc sur George Floyd. Je suis allé sur le site d'un joueur de la NBA, son site Instagram, Steven Jackson. Puis, il a joué 14 ans dans la NBA. Puis, il connaissait, c'est un ami de George Floyd. Puis, il a partagé une seule photo de son ami George Floyd. C'est ce monsieur-là, habillé de son habit de footballeur. C'était un ailier rapproché, un tight end, comme on dit en anglais. Puis, il avait été jusqu'au championnat d'État quand il avait joué dans les rangs des écoles secondaires. C'était quand même un athlète en son temps, puis tout ça. Puis je trouvais, moi, je veux pas voir la face du policier. En fait, c'est ce que je veux, c'est qu'on se souvienne que ce monsieur-là n'avait absolument rien d'une personne qui était dangereuse, sinon que par la couleur de sa peau.
Écoute, 4 minutes, là, le genou sur la jugulaire, à 15 reprises, il a dit je ne peux pas respirer. Vraiment, là, ça me faisait penser à la toune que je chantais, voyons, c'est qui, la chanteuse de jazz aux États-Unis qui est Billie Holiday, Strange Fruit, où elle parlait des Noirs qui étaient pendus aux branches des arbres dans les années 20. Ça nous ramène quasiment, c'est vraiment dégueulasse. Je peux te comprendre de ne pas pouvoir regarder ce vidéo-là, c'est révoltant. Écoute, tu veux parler de liberté d'expression aussi.
Oui, c'est important parce que on voit ça, ça revient tout le temps. Dans tout ça là, oui, il y a l'espèce d'annonce, la pub de Maxi, puis la réaction aussi de Martin Matt que j'ai trouvé qui était une réaction. En même temps, tu sais, ça en dit beaucoup. Il y en a beaucoup là-dedans. On sent qu'il y a une certaine retenue, mais on est capable de lire quand même.
Oui.
J'ai trouvé ça très intéressant. Mais le texte de Mathieu Bock-Côté aussi par rapport à ce qui se passe à l'université, encore une fois. Puis, c'est tout ce que j'ai fait en préparation de ça. Je me suis dit, je vais retourner, moi, dans mon parcours universitaire, post-bac, si tu veux, pour la maîtrise et même pour la scolarité de doctorat. J'ai beaucoup étudié la contre-culture québécoise parce que c'était quelque chose qui me passionnait vraiment, là, beaucoup, beaucoup. Puis, je suis retourné dans un bouquin de 1968 de Denis Vanier qui s'appelle « Pornographique délicatessen ». Denis Vanier qui a été en 2001, c'était posthume parce qu'il est décédé en 2000, qui a été primé par la ville de Montréal, un poète, enfin, on a reconnu son œuvre, c'est un poète majeur là, dans notre poésie poésie québécoise, là, vraiment, c'est un de nos titans, moi je veux le dire, c'est le poète contre-culturel qu'on a eu, et dans ses dialogues avec Patrick Straram, je veux dire, il dit quelque chose sur l'écriture, je sais même pas si on publierait ça aujourd'hui, et c'est dans des lettres qu'il échange avec Patrick Straram, le bison ravi, une autre figure de la contre-culture de Montréal des années 60. Il dit, l'écriture, à force de bâtir des églises où pourrissent dans la pénombre les artères éclatées des statues de l'ordre, est un piédestal au déchu, mais en sursaut d'opium, ciment encore aigle, pour lesquels la malédiction est signature de coups de fouet. Puis, ça continue comme ça. Il y avait un tel langage violent quand il s'exprimait à propos de l'ordre, mais à propos de beaucoup de choses, à propos de la sexualité. On se souviendra que Denis Vanier s'était révélé au grand public et surtout à la scène, si on veut, le poétique montréalaise, quand il s'était présenté à la Nuit de la Poésie de 1970. On le voit dans le film de Claude Labrecque. Il détonne par rapport aux gens qui avaient les pattes d'éléphant et tout ça, puis qui avaient un discours hippie. Lui, il s'est présenté sur scène avec son afro, puis il a lu un texte d'une violence inouïe qui s'appelle Allopolis. On pourrait plus publier ça aujourd'hui.
Mais exactement. Et moi, je suis très inquiet, Steve. Quand je vois là, que les gens sont prêts à donner des pouvoirs à l'État de surveiller nos allées et venues avec des logiciels dans notre cellulaire, quand on est prêt à donner du pouvoir à différents groupes de pression qui vont nous dire quoi écrire, quoi penser, etc., on est en train... Les libertés qui ont été durement acquises grâce à des luttes, on est en train de vendre ça à rabais, nos libertés. Vraiment.
Tout à fait. Elle n'est pas loin, l'époque où, à un moment donné, on va commencer à faire une revue de la littératie au Québec, probablement, où on va se dire, il y a des œuvres qu'on va peut-être même vouloir mettre à l'index. Pourquoi on ne pourrait pas envisager ça dans... Ben, moi, quand je vois ça en ce moment, il y a un tel délire, là, quand je vois ce qui se passe, par exemple, dans certaines universités où on dit, par exemple, ce type de conférence-là, non, on veut pas dans des librairies, tu sais, je veux dire, non, on veut pas que cette personne-là s'adresse au public en fonction de paramètres idéologiques, et tout à coup, on va encadrer la liberté d'expression en fonction d'une idéologie X. Je veux dire, on le voit déjà ça dans le débat sur la laïcité au Québec depuis 15 ans. Pour certaines personnes, le seul fait de ne pas adhérer à l'idéal antiraciste ou le seul fait d'être pour la laïcité puis d'en défendre les contours, ça fait de ces gens-là qui deviennent des infréquentables puis même des gens qu'on voudrait mettre à l'index, fermer la liberté d'expression, empêcher la liberté d'expression. Ça m'arrive encore au cours des 24 dernières heures. Je reçois encore des messages de gens qui me disent c'est ça, Fortin, on sait bien.
Ben oui. T'as pas le droit de dire ça. Écoute, il y a un film de Francis Weber avec Pierre Richard qui s'appelle Le Jouet. OK, écoute-moi bien. Il y a un propriétaire, un patron d'une entreprise qui fait venir son employé et qui lui dit déshabillez-vous. Et là, l'employé dit pardon, il dit déshabillez-vous. Et là, le gars commence à se déshabiller. Et là, le patron l'arrête en lui disant, je vous ai demandé de vous déshabiller et vous acceptez. C'est qui le monstre? Est-ce que c'est moi ou c'est vous? Je te dis ça parce que c'est une chose que des gens demandent qui sont fâchés contre la pub de Maxi. Mais Maxi n'a que se tenir debout. À un moment donné, ces entreprises-là aussi, là, ils ont pas à plier les genoux dès qu'il y a des plaintes contre eux autres. Il va falloir eux autres qui se tiennent debout aussi en disant non, on la trouve correcte, on y a pensé à cette publicité-là, on ne vise personne, on ne dit pas que les gros sont dégueulasses, on rit du confinement, que tout le monde a pris du poids pendant le confinement. Ben non, il s'agit que quelqu'un, un petit groupe, fasse une plainte, que ces entreprises-là reculent, comme ils ont fait au Festival de jazz avec Canada.
Peut-être que ces gens-là, à un moment donné, apprennent. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Non, Robert Lepage, Slave, tenez-vous debout, continuez. » Puis j'avais vu le premier show, moi, avant que ça soit monté, quand j'ai un blanc de mémoire, la chanteuse, en tout cas. Oui. Mais tu sais, et puis ces chants d'esclaves-là, j'avais trouvé ça absolument merveilleux, magnifique. Je me disais, mais là, qu'est-ce qui arrive? On voit les groupes de pression, les manifestations devant, les campagnes sur les réseaux sociaux, les espèces de dessins, là, complètement, les dessins d'abeilles agressives sur les réseaux sociaux qui viennent et qui montent là, en épingle. Je veux dire, à un moment donné, si tu te mets dans la peau des gens qui mènent une entreprise, puis tu te dis, c'est quoi les avantages puis les inconvénients? Si on décidait, par exemple, de, OK, non, on la retire pas, on y va, puis, tu sais, peut-être qu'il aurait demandé à Martin Matt, là, maintenant, tu vas aller sur la place publique, tu vas défendre
ça. Ben oui.
Lui, il pense à sa carrière aussi. Je le sais pas, là, mais ça va jusqu'où? Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là là-dedans? Ben, je ne sais pas.
Mais moi je trouve ça bien ben inquiétant. Betty Bonifaci,
Betty Bonifaci. Quel spectacle qu'elle a donné. Puis, j'ai tellement aimé son show quand elle le faisait en solo, là, si on veut.
Non, mais cette fille-là, là, elle était très peu payée. Elle a consacré des années de sa vie à déterrer des champs d'esclaves qui avaient été oubliés pour rendre hommage à ces gens-là. Et on la traite de raciste. Voyons.
Ah, écoute, des fois, là, je me
dis... Tu sais que sa carrière est presque finie, cette fille-là. Elle a parlé à un de mes amis, là, puis elle dit qu'elle a plus de contrat nulle part, là. Vraiment, elle est mise de côté totalement du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rendre hommage aux esclaves. Elle a plus de job.
Ben c'est ça, c'est ce que je dis, c'est la mise à l'index. Moi aussi j'en connais d'autres personnes comme ça qui à un moment donné, à force de se coltailler puis de ben tu deviens comme un peu un infréquentable.
Ben oui.
Puis c'est un peu plate parce que je veux dire à un moment donné cette espèce de liberté d'expression là qu'on est supposé chérir et défendre, ben on l'a vu de toute façon après Charlie Hebdo, il y a beaucoup de gens moi que je leur fais noter des fois, hey, tu signais à l'époque je suis Charlie puis t'étais sur Twitter puis hashtag je suis Charlie, je regarde ce que t'écris aujourd'hui puis je me demande non mais finalement si tu je suis plus Charlie pantoute puis j'aurais pas dû signer ça puis on peut pas tout dire, ben je veux bien croire là, mais en ce moment, moi, quand je regarde la façon dont on cadenasse un peu la liberté d'expression au Québec en fonction d'intérêts très très ténus là, puis des fois là très très militants, ben je me dis comme toi que il devrait avoir des gens avec un peu plus de colonne.
Tout
pour
à fait, de colonne.
À tous les assauts.
J'en profite en terminant, je te lève mon chapeau, Steve, parce que toi, tu te tiens debout contre ton camp. Je le redis, t'es un gars de gauche, t'es fièrement de gauche, et tu dénonces les excès d'une certaine gauche, tu te mets des gens de ton propre clan à dos, tu te fais brasser en maudit ces médias sociaux, tu dois pas trouver ça drôle, tu pourrais prendre ton trou en disant non, ok, j'arrête là, tu continues, tu te tiens debout. Bravo,
c'est drôle, hein? Moi, je te dirais ceci en terminant. Encore ce matin, je partageais avec quelqu'un avec qui je débat, Ismaël Sec, là, on le connaît, là, avec il s'était coltaillé avec Benoît Dutrisac. Puis on parle de laïcité, puis moi je lui dis, moi là, ma vision de la laïcité, c'est celle de Sol Zanetti, puis je lui partage un texte de Sol Zanetti de 2013 où il dit que justement la laïcité, ça devrait surtout être à l'école. On me répond oui, mais il a évolué.
Ça sera une évolution,
puis pour d'autres, ça sera une régression. Le peuple québécois, à un moment donné, va trancher.
Exactement. Merci beaucoup d'être là, Steve. Passe un excellent week-end, Steve Fortin.
Salut bien.